Monsieur Julien, la semaine dernière, vous nous avez raconté une très belle légende, la légende de Saint-Antonin. Quelle est la part de vérité, quelle est la part d'imaginaire? Nul ne le sait. Pourtant, une chose est certaine, il y avait près du confluent de la Bonnette et de l'Aveyron un monastère qui abritait les reliques de Saint-Antonin. Et d'innombrables pèlerins venaient adorer ces reliques. Certains se sont fixés autour du monastère, et ainsi est née la ville de Saint-Antonin. Mais nous sommes dans une période de grande insécurité, et la ville de Saint-Antonin passe sous la domination du comte de Toulouse, qui délègue ses pouvoirs à Saint-Antonin à une famille de vicomtes. C'est l'histoire de cette famille de vicomtes que vous allez aujourd'hui nous raconter. Alors, qu'en savons-nous de ces vicomtes?
Nous n'en savons rien de très précis. Cependant, nous possédons d'assez nombreux documents qui font mention des vicomtes. Le plus ancien que j'ai sous les yeux actuellement est un parchemin de 65 cm de long et de 20 cm de large, qui porte un texte dont je lis la première phrase: In nomine Domini nostri Jesu Christi. Ego, Isarn, Vice Comes, et William Jordani, atque Petrus, Concilio Azemari Rutenensis Episcopi, et Raimondi Tolosanensis Episcopi. C'est en latin, j'arrête là si vous permettez, mais cette première phrase nous annonce que trois vicomtes, successivement Isard, Guillaume Jourdain et Pierre, les trois étaient frères, sur l'ordre ou le conseil d'Azémar, évêque de Rodez, et Raymond, évêque de Toulouse, décident, dans le texte qui suit, on nous dit qu'ils décident de faire abandon d'une mauvaise coutume qu'ils avaient l'habitude d'avoir et qui s'appelait la quête, c'est-à-dire un impôt qu'ils prélevaient sur les habitants de Saint-Antonin. Nous savons donc ainsi, de façon certaine, qu'à cette époque-là, à l'époque où a été rédigé ce texte, existaient des vicomtes. À quelle date? Les érudits qui ont étudié la généalogie des vicomtes, et en particulier Louis Guirondet et l'abbé Galabert, pour le compte de la Société archéologique du Tarn-et-Garonne, ont pu fixer avec précision que ce texte avait été écrit entre 1140 et 1144. Se basant en cela sur la prise de possession de leur évêché, d'un côté de l'évêque de Rodez et de l'autre côté de l'évêque de Toulouse, sachant que l'un avait fini ses fonctions en 1140 et que l'autre les avait prises en 1144. Donc il n'y a pas de doute, ce texte est de cette époque précise, à 4 années près. D'autres textes existent aussi qui font mention des comtes de Toulouse, textes étrangers à la commune que nous n'avons pas en notre possession, mais qui nous permettent de dire avec certitude qu'en 1080 déjà, il y avait des vicomtes à Saint-Antonin. D'autres textes que nous possédons nous apprendrons plus tard que le dernier des vicomtes cessera ses fonctions de vicomte en 1250, c'est-à-dire que les vicomtes de Saint-Antonin n'ont finalement régné ici que pendant un siècle et demi. Qu'étaient ces vicomtes exactement? Quel était leur nom? Quelles étaient leurs armoiries? Quelle était leur filiation? D'abord, tous les documents que nous avons consultés ou que nous possédons font mention de ce nom, Isard. C'est un vieux nom, ça qui n'existe plus aujourd'hui, qui est assez bizarre. Isard, c'était en général le fils aîné de la famille. Et nous aurons ainsi en 1080 Isard I et en 1250, le dernier, Isard V. Une série donc de 5 générations de vicomtes. Il faut savoir en outre que comme la vicomté de Saint-Antonin n'était pas un fief très important, ces vicomtes, quand ils étaient plusieurs enfants de la même famille, co-géraient le fief C'est-à-dire que la vicomté était indivise entre les trois. Et nous avons ainsi de nombreux actes de partage de la vicomté, c'est-à-dire de répartition des revenus de cette vicomté. Quelles étaient leurs armoiries? Nous les connaissons aussi. Elles sont très simples. C'est un écu. Sur fond rouge se détache une croix d'or ancrée. De gueule à la croix d'or ancrée. C'est un symbole assez banal. Nous savons aussi que ces vicomtes étaient plus ou moins apparentés au comte de Toulouse, apparentés au vicomte de Lautrec. Les comtes de Toulouse fréquentaient souvent la région au début de leur règne, et l'on sait sans doute que le château de Casse fut à l'origine un rendez-vous de chasse des comtes de Toulouse. Reste leur château. Où était le château des vicomtes? Certaines publications, beaucoup de gens croient que le musée actuel, cette merveille romane, était le château des vicomtes. Nous verrons, en parcourant l'histoire de notre commune, qu'il n'est pas possible qu'à l'époque où ce monument a été construit, il l'ait été pour les vicomtes qui déjà étaient passablement appauvris. Il fallait être très riche pour bâtir un château pareil. Pierre Bayrou pensait que sa maison était le château des vicomtes. On peut émettre aussi l'hypothèse, et c'est la mienne, que le château des vicomtes se trouvait dans la partie la plus élevée de la ville, c'est-à-dire pour moi du côté du plateau des Carmes. Et j'appuie cette affirmation par un détail, c'est que jusqu'au XVIe siècle a subsisté là, du côté de la porte des Carmes, une tour assez élevée qu'on appelait la tour du roi et qui me paraît pouvoir être le siège du château des vicomtes.
Monsieur Julien, est-ce que vous pourriez nous expliquer quel a été le rôle des vicomtes à Saint-Antonin?
Ce rôle reste assez obscur, compte tenu du fait que les documents que nous possédons aux archives municipales sont des documents municipaux, c'est-à-dire ceux qui ont été établis pour montrer, confirmer la perte d'influence ou la déchéance des vicomtes. C'est ainsi que le premier, dont j'ai parlé tout à l'heure, la charte de 1140-1144, marque la première atteinte au pouvoir absolu des seigneurs. Désormais, après ce texte, que nous étudierons plus en long dans une autre émission, les vicomtes de Saint-Antonin n'ont plus le droit d'imposer à discrétion leurs sujets saint-antoninois. Un autre texte, quelques années après, en 1155, nous détaille en très long le partage de la vicomté entre Isard, Flotard, Sicard, etc. C'est-à-dire que déjà, l'autorité vicomtale se divise, se partage. Enfin, ce texte de 1197, que je vais vous lire, parce qu'il intéresse tous les Saint-Antoninois. Donation faite par Isard, vicomte de Saint-Antonin, frère de Flotard et de Sicard, au seul Dieu et à la Vierge Marie, au bienheureux martyr Antonin, et à tous les habitants de la ville de Saint-Antonin présents et à venir, et à tout le commun de la dite ville, par bonne foi, donne donc le grand pré appelé de Saint-Antonin, qui est proche le ruisseau de Bonnette, en tout son entier ses appartenances, et de tout le droit qui pourrait lui appartenir. Promet garantie de droit, de ne se réserver rien que comme particulier. Et alors, en cette considération, les consuls de la ville, qui étaient pour lors, paient au dit vicomte la somme de 1 000 sols caorsins que le dit vicomte déclare avoir reçu comptant, s'en dessaisir et en donner investiture. Voilà l'acte passé en février 1197 qui consacre l'abandon d'un territoire important aux portes de la ville au profit de la communauté. Puis il y aura la charte de 1203, une nouvelle charte qui complète celle de 1140, qui sera confirmée par Raymond, comte de Toulouse. Enfin, en dernier lieu, la donation de tous ses droits, de toutes ses possessions, faite par Isard V en 1246 au roi Saint-Louis et à la ville. C'est la fin des vicomtes. Ils ont tout perdu, pouvoir, richesse s'ils n'en ont jamais eu, et autorité. Cependant, quelques faits marquent tout de même dans leur vie qui ne manquent pas quelquefois de grandeur. On sait qu'ils ont participé, que Isard II participa à la première croisade derrière son suzerain Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, en 1096, que certains d'entre eux participèrent aux croisades suivantes, aux croisades qui furent organisées aussi contre les Sarrasins d'Espagne.
Donc on sait que les vicomtes de Saint-Antonin ont participé aux croisades. Et Madame Julien, je crois que vous avez un texte musical pour illustrer ces croisades.
Oui, voici donc une chanson de croisade. Elle est due à Thibaut de Champagne, roi de Navarre par héritage, qui naquit au début du XIIIe siècle. Le comte Thibaut de Champagne est un trouvère. Dans les pays du nord de la Loire, on donnait ce nom à celui qui avait le don de trouver, le poème, la musique. Trouver a donné trouvère. En Occitanie, ce don, c'est le troubard, d'où le nom de troubadour. Troubard a donné troubadour. Il est bon d'ailleurs de préciser que la poésie lyrique paraît être née chez nous. Parce qu'en ce temps-là, les pays de Languedoc avaient une culture plus raffinée que les pays de Languedoy. Cette chanson est donc en français. Elle exhorte les seigneurs à se croiser pour partir en Terre Sainte. Seigneur, sachez que celui qui n'ira pas en cette terre où Dieu fut mort ou vif, et qui la croix d'outre-mer ne prendra, à grand peine ira en paradis.
Julien, vous nous disiez que les vicomtes de Saint-Antonin avait participé aux croisades. Et quand on pense croisade, on pense plutôt à croisade en Terre Sainte. Mais ils ont aussi participé à la croisade des Albigeois.
Un fidèle sujet ou vassaux des comtes de Toulouse, nos vicomtes ont été impliqués dans cette terrible épreuve qu'on appelle la croisade des Albigeois, qui a ensanglanté notre région pendant près de 50 ans, autour de la fin du 11e, fin du 12e et début du 13e siècle. On sait sans doute de quoi il s'agit. C'était développé au cours du 12e siècle dans notre région ce qu'on appelle une hérésie, c'est-à-dire une croyance contraire à l'orthodoxie de l'Église catholique, apostolique et romaine. Les tenants de cette hérésie furent appelés les cathares, c'est-à-dire les purs. Nous développerons dans une émission ultérieure les thèmes principaux avancés par les cathares. Donc, les vicomtes de Saint-Antonin, s'ils n'adhèrent pas au catharisme, suivent le comte de Toulouse, parce qu'en définitive, cette croisade des Albigeois, cette lutte contre le catharisme, a été exactement une prise de possession du midi de la France par les seigneurs du Nord. Et le comte de Toulouse a essayé de résister vainement, tout le monde le sait. Les vicomtes de Saint-Antonin donc sont partie prenante. Et en 1212, quand Simon de Montfort, le terrible Simon de Montfort, s'empare de Saint-Antonin après un siège assez court, le vicomte Pons et son cousin Adhémar Jourdan, qui doivent se rendre, sont traités sans pitié. Ils sont faits prisonniers et emmenés dans les prisons de Carcassonne, et personne n'entendit plus parler d'eux. Et c'est ainsi qu'aussi nous apprenons par un texte de 1246, par lequel Isard V fait abandon de tous ses droits au roi de France et à la ville de Saint-Antonin, nous apprenons que ce vicomte Isard, qui avait auparavant, avant cet abandon de droits, fait une donation à un parent de Caussade, a été obligé dans le même acte de renoncer, de révoquer cette donation, parce que, dit-il, à l'époque où il l'avait faite, il était excommunié. Et il était excommunié pourquoi ? Tout simplement parce qu'il avait été reconnu coupable d'adhésion à la théorie, à l'hérésie des cathares. Il avait été victime des inquisiteurs royaux et pontificaux. Thank you.
C'était de la musique anonyme du XIVe siècle, le Lamento de Tristan, interprété à la viole de gambe avec accompagnement de tambourin.
Monsieur Julien, la fidélité au comte de Toulouse a valu au vicomte de Saint-Antonin un bien triste sort. Et à ce moment-là, quelle était la position de la ville de Saint-Antonin?
La ville, du moins de ses habitants. C'était une ville très riche, très commerçante, dont le commerce s'étendait presque dans tout le bassin méditerranéen et l'Europe du Nord. Il est facile de comprendre donc que les dirigeants de la ville, ceux que l'on appelait les consuls, ceux qui avaient le pouvoir, ont très vite abandonné les idées cathares, s'ils les ont jamais eues, pour se mettre sous la protection du roi, une protection qui leur assurerait certainement un grand profit. L'idéal ne paie pas. Enfin, pauvre vicomte, on n'entendra plus parler des vicomtes après 1246. On ne sait pas si leurs descendants, on ne sait pas ce que leurs descendants sont devenus. Mais de tous ces vicomtes, de ces 5 générations de vicomtes, à peu près inconnus aujourd'hui, il en reste un, que des études récentes ont fait réapparaître. Parce que c'est un poète, c'est un homme d'art, et que l'art ne meurt jamais. C'était Ramon Jordán. Et voici, tiré d'un petit livre que la municipalité de Saint-Antonin avait édité en 1913, un livre qui est de Robert Latouche, Saint-Antonin, page d'histoire. Voici la biographie de Ramon Jordán, écrite par un poète du XIIIe siècle, Hugues de Saint-Cyr, un de ses contemporains donc. Écoutez, Ramon Jordán fut vescomte de Saint-Antonin, seigne d'une Rixbourg que j'encarcie, et fut abinens et l'arts et bouche d'armes, et saup trouva et ben entendre. Et Amet, la mulière d'un amiel de peno d'Albetses, qu'era un rat bars. Et la donna era bello, et zube, et enseñado, e volio mai debe al vescunte che al res del monde, e el adelo. E avense che el vescuns fu en guerra a besus enemits, e fu una fratz e in uno battaglio, e fu portata a San Antoni per mort. E la nubelo ben caladona, ai tals che mort ero, d'un telo actandulur, que se'n rendet als patarís, l'ubescuns, geri de Sanafra, e can sap que la dona s'era rendido, ac tan dolor que puei no fets vers ni cançó. Voilà en occitan du XIIIe siècle cette langue parlée et écrite par nos compatriotes de cette époque, la biographie de Ramon Jordán. Raymond Jordán. Raymond Jordán fut vicomte de Saint-Antonin, un riche bourg du Quercy. Il était avenant, généreux, bon chevalier. Il était aussi bon troubadour et galant. Et il aima la femme de Amiel, seigneur de Peine d'Albigeois, lequel était un baron puissant. Et la dame était belle et jeune et instruite, et elle voulait au vicomte plus de bien qu'à quoi que ce fût au monde. Et le vicomte avait pour elle les mêmes sentiments. Mais un jour vint, où le vicomte partit en guerre contre ses ennemis. Il fut blessé dans une bataille et ramené à Saint-Antonin où il passa pour mort. La nouvelle de sa mort vint aux oreilles de la dame, et elle en ressentit une telle douleur qu'elle passa à la religion des patarins, c'est-à-dire les cathares. Ce mot existe encore, los pataris. Le vicomte guérit de sa blessure, mais quand il connut la conversion de la dame, il en eut une si grande douleur que plus jamais il ne fit vers ni chanson.
Monsieur Julien, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Vous nous avez dit que les vicomtes de Saint-Antonin s'étaient engagés à la suite du comte de Toulouse et s'étaient convertis à la religion des cathares. Et vous nous dites maintenant que le vicomte Raymond Jourdan était choqué de ce que la dame de Peine soit aussi convertie à la religion des cathares. Vous pouvez nous expliquer ?
Mais c'est facile. À partir du moment où elle est entrée chez les cathares, elle lui est devenue inaccessible. Inaccessible charnellement d'abord, parce que c'était un des points essentiels des cathares, que ce mépris du corps, et que dans toute la mesure du possible, tout ce qui était relation entre hommes ou femmes était proscrit par ceux qui voulaient être des purs. On a dit les cathares plus haut, ça veut dire les purs, mais les purs dans tous les sens, au sens moral comme au sens physique. Mais nous en reparlerons des cathares, sans doute, cela passionne souvent les gens.
En réalité, Raymond Jourdan se consola. Et ses poèmes, sa musique, nous permettent d'imaginer l'homme avec sa culture, ses pensées, ses sentiments. Tant il est vrai que la ville meurt, mais que l'œuvre d'art continue à vivre. De Raymond Jourdan, nous sont parvenus 13 poèmes, dont 2 seulement avec la musique. Encore a-t-il fallu que des spécialistes interprètent la notation musicale, fort incomplète, et qui ne correspond que de très loin à celle dont nous avons l'habitude. Dont le troubadour chantait son poème, s'accompagnant de la vielle ou du luth. Il chantait son amour pour la belle Adélaïde de Peine. Nous n'avons ni vielle ni luth, et non plus la pure voix de ténor qu'exigerait la musique, mais nous allons, Yves Vallière et moi-même, tentez de vous donner une idée d'une chanson de Raymond Jourdan. Elle sera chantée dans son texte en vieil occitan. Le premier et le septième couplet. En voici d'abord une traduction.
Le temps clair, je vois s'assombrir et les oiseaux en désarroi, car le froid les tient oppressés, muets, et sans espoir de joie. Et moi, qui ai dans mon cœur souci, à cause de la plus belle chose qui jamais fut, si joyeux je suis, que désormais, il me semble que la feuille et les fleurs s'épanouissent. Et si je dis la joie que j'en ai, ne le tenez pas pour de l'orgueil, car je la veux et la désire tellement, que si j'étais en peine de mort, je ne demanderai pas plus fort à Dieu de m'accueillir dans son paradis comme de me donner loisir de coucher une nuit avec elle. Aussi bien, comme je dis vrai, donnez-moi, Dieu, de pouvoir le faire.
Et c'est un dit beaucoup d'or. cerf in cuito de mort. No queria diu ta fort que la iese eu paradis ma culis
Madame Julien, dans le générique, nous disons illustration musicale choisie par Madame Julien. Mais là, vous êtes allé beaucoup plus loin. En effet, nous avions la chance d'avoir des textes et des musiques de Raymond Jordan, mais personne ne les avait interprétés. Alors vous avez demandé à Monsieur Vallière de vous accompagner et vous avez interprété ce texte. C'est une grande première.
Bien, à ma connaissance, oui, si l'on veut, bien qu'il faille se garder d'affirmer sans savoir. Le Moyen-Âge fut longtemps jugé comme une période d'obscurantisme, mais voici que l'on découvre toute sa richesse, et en particulier dans le domaine littéraire et musical. Et peut-être les chansons de Raymond Jordan, à l'occasion de quelques stages d'études, ou de quelques festivals de la chanson ancienne occitane. Mais il se pourrait bien que ce soit vraiment une première. Excusez du peu. Et même si l'interprétation laisse à désirer, même si les spécialistes ou les esthètes ont envie de sourire, je pense que les Saint-Antoninois méritent d'avoir un aperçu de l'œuvre de notre premier poète. C'est mieux que rien.
Monsieur Julien, la semaine prochaine, vous nous raconterez l'histoire de Saint-Antonin après la disparition des vicomtes.
Après ou pendant leur décadence, quoi. C'est-à-dire la ville au XIIe siècle.
Madame Julien, Monsieur Julien, je vous remercie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Au revoir, Patrick.
Au revoir, Patrick, et au revoir à tous.